Croisé, la première émission intergénération.
Aujourd'hui dans Transportons-nous dans le temps, les résidents de la Cépriere évoquent le développement durable et la mobilité douce avec les jeunes du centre de loisirs de Juvillac.
Ben, une bonne raison, on ne parlait pas de pollution dans mon enfance. C'est toute la, la réponse. Maintenant, en y réfléchissant, sans doute, parce que peut-être l'hygiène n'était pas comme maintenant. Mais je pense qu'elle n'était pas polluée, puisqu'on a survécu.
Moi, je dirais, pour la pollution, il y en avait toujours, mais la pollution ancienne était plus naturelle, les pollutions de la nature et l'hygiène. Mais aujourd'hui, c'est plus chimique. Voilà, c'est la différence.
Ça a toujours été pollué. C'est parce que les gens ne sont pas éduqués, ils ne font pas attention. Ils n'aiment pas trop la nature, finalement.
Moi, j'aime bien la nature, sauf quand j'ai envie de faire pipi, je ne trouve pas de bon endroit. Alors, non, c'est pas pareil, mais je me débrouille quand même.
Est-ce que vos jardins étaient bio ?
Il y avait un jardin chez moi, mais bon, il y avait du fumier, mais du fumier de poules, de volailles. Mais je ne vois pas comment ils auraient pu être pollués.
Oui, nous avions des engrais naturels. Du compost, toutes les feuilles mortes, tout ça, on les enterrait, on les enfouissait dans la terre et ça produisait du compost. C'était bio malgré ça, automatiquement, parce qu'on n'avait pas besoin d'autres produits. Ils nous servaient de fumier, voilà, d'engrais. On n'avait pas besoin d'engrais chimiques.
Oui, tout était bio. Surtout moi, il y avait de tout. J'aimais bien les artichauts, parce qu'ils avaient de la gueule.
J'avais pas de jardin. J'allais au Jardin des Plantes, à Paris. C'est un très joli jardin, mais c'était un dépotoir. C'est là où les gens jetaient tout ce qu'ils n'avaient pas besoin. Ça devenait très sale, et c'est pour ça que petit à petit, on s'est jeté sur l'amélioration des conditions de vie par le nettoyage. Ça a donné ce que ça a donné, on le voit encore, mais il y a beaucoup de choses à faire et c'est une grande école qu'il faut suivre.
Connaissez-vous des maladies qui sont liées à l'environnement ?
Il y en a beaucoup de maladies. Non, je ne peux pas vous répondre.
Alors, il y a surtout les allergies, et puis la plus grave pollution serait des catastrophes nucléaires. Alors là, vraiment, ça serait le pire de tout. Je crois que le corps humain s'adapte aussi à ces pollutions plus légères, je ne parle pas des catastrophes, mais les autres pollutions, je crois qu'on est, l'homme évolue avec le temps. On s'y habitue, il faudra bien à la pollution des voitures et tout ça. Les plus jeunes, peut-être, ils auront d'autres problèmes, mais pas celui-là. Je ne sais pas. On ne peut pas prévoir. Mais il y a des maladies, certainement, mais ne viennent pas à l'esprit, mais les respiratoires et tout ça. Il y en a beaucoup d'autres aussi, sur moi.
Bon, je crois plutôt que ce sont des maladies qui ne sont pas nouvelles, qui sont anciennes et qui s'entretiennent par la pollution des villes, pas forcément des habitations, mais des villes.
Je reprendrai tout à fait les termes de monsieur, car la pollution, c'est une chose qui s'apprend dans la ville, parce qu'on n'a pas éduqué suffisamment les enfants, dès leur plus jeune âge, à savoir vivre en ville. Ils ne savaient pas, les parents non plus. Alors, c'est ce qu'il faut essayer de faire à travers le travail, à travers l'éducation, tout simplement.
Y a-t-il des animaux que vous avez connus et qui ont disparu ?
Pour des les animaux disparus, il faudrait déjà être connaisseur et des races communes que nous côtoyons, je ne crois pas. Il y aura peut-être des chevaux de labour, tout ça qui disparaîtront un jour, mais pour l'instant, je n'en vois aucun. À moins d'animaux de la jungle et tout ça, mais ça nous ça va. Je ne suis pas assez qualifiée pour le dire.
Oh, oui, non, je n'ai pas connu des diplodocus.
Oui, on parle toujours d'animaux, mais les poissons sont des animaux. Et il y a des poissons qui tendent à disparaître, comme le thon et le cabillaud et tout ça, il y en a de moins en moins. Et si on y prend garde, il n'y en aura plus.
Que pensez-vous de la qualité de l'eau en Méditerranée?
Je pense que c'est une catastrophe, parce que ça va faire disparaître beaucoup d'animaux qu'on connaît, que vous ne connaîtrez peut-être pas plus. Et que c'est quand même honteux. À notre époque, avec tous les moyens qu'on a d'être obligé de s'intéresser à ça, alors qu'on fait périr des bêtes qui nous seront très utiles et qui seront très utiles à l'avenir.
J'ai pas entendu parler de grande pollution en Méditerranée.
La pollution, c'est un vaste sujet, mais il suffit que vous ayez. La première fois que je suis arrivée sur la Côte d'Azur, j'ai voulu me promener au bord de la mer et je me suis approchée sans le savoir, sans être prévenue. Et c'était le déversement d'une bouche des égouts de je ne sais pas d'où, de la ville. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris. Non mais... C'est pas beau, mais c'est comme ça. Alors, j'étais tellement déçue par l'eau de mer, je me suis dit, mais heureusement que c'est pas partout pareil, mais là où ça vous tombez dessus, alors vous en éloignez tout de suite. Et bien sûr, la mer est grande. Heureusement, elle dilue tout ça, mais quand ça arrive, c'est pas très joli.
J'en pense beaucoup de mal, parce que tout le monde... Tous les pays autour, ils jettent leur détritus. Tu comprends? Eh bien, c'est pas bien, parce que tout le monde se baigne et avale même de l'eau de la Méditerranée. Eh bien, il vaut mieux aller en Bretagne, où l'eau est salée, mais est meilleure pour la santé. Voilà. Ce que j'ai à te dire, ma petite chérie.
Moi, j'aime mon pays. Je pense qu'on a raison de dire que les eaux de Méditerranée sont mauvaises parce qu'elles sont noircies par l'utilisation exagérée des eaux. On ne sait pas s'en servir. Or, l'eau potable est une chose dont il faut savoir se servir, savoir la traiter, la manier. Ça s'étudie. On doit forcer sur ce travail-là. Voilà ce qui me paraît essentiel.
Êtes-vous écolo?
Non, pas spécialement. Chose qu'il faudrait être.
Eh bien, moi, je dirais un petit peu comme madame, là. Mais on nous a appris tout de même à tout respecter.
Je veux dire, l'écologie, le mot écologie n'existait pas. Mais on l'était par nature. Si on voulait la respecter déjà. Il y avait des gens qui auraient jeté n'importe quoi dans la rue, d'autres moins. Et ça remonte à tous les temps. Mais aujourd'hui, on en fait une théorie. Mais ça a toujours existé. Il y aura toujours des gens qui jetteront n'importe quoi, n'importe où. Et on n'arrêtera pas. Toute une éducation à faire, mais ça, c'est pas pour demain.
Pas particulièrement, mais de toute façon, j'ai été éduqué comme quelqu'un qui respecte la nature et qui l'embellit. Voilà. Alors, je suis pas mécontent de moi.
Moi, je respecte éminemment l'avis de monsieur et je suis tout à fait de son accord. Je suis prêt à faire tout le travail nécessaire pour que l'eau, on maintienne le climat, un bon climat dans la nature, qu'on travaille dessus et qu'on fasse tout ce qu'il y a à faire, mais qu'on le fasse intelligemment. Voilà.
C'est quoi les énergies renouvelables ?
Finalement, j'en sais rien du tout.
Bon, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par énergie renouvelable. Est-ce que c'est le photovoltaïque ? Est-ce les éoliennes ? La nucléaire, je l'aime pas, donc je ne le mettrai pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé.
Que faites-vous à la maison de retraite pour préserver l'environnement ?
Ben on évite de laisser les lampes allumées quand on n'en a pas besoin, déjà pour commencer. Et de les éteindre quand il faut. Mais bien sûr, pour éviter de gaspiller, c'est surtout ça qu'il faut, éviter le gaspillage.
Moi, j'avoue que je n'ai qu'un mot, éviter le gaspillage. Parce que c'est un peu difficile, tout est prêt, tous les appareils sont prêts, on fait qu'utiliser, nous... On n'a rien pour économiser.
On peut quand même limiter beaucoup de choses.
Je suis entièrement d'accord avec les deux dames pour ce qui est d'économiser l'eau, l'électricité, quand on n'en a pas vraiment besoin. Mais seulement, il y a d'autres problèmes aussi. Par exemple, ouvrir très grand les fenêtres quand il fait très chaud dehors et mettre la clim à fond d'un autre côté en même temps. Ça consomme énormément d'énergie. Et si on pouvait l'éviter, mais ça, c'est très difficile. Et ensuite, en hiver, c'est la même chose. C'est l'inverse qui se produit. Ouvrir les fenêtres quand il fait très froid, au lieu de les fermer, et chauffer un peu moins. Et c'est déjà une bonne chose. Et plus, je n'en ajouterai pas plus.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges, j'ai de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se
voiture.
Une traction avant, une 11 légère, conduite depuis 1950.
les premières voitures se sont vulgarisées. Après-guerre, à plusieurs années, elles ne sont pas entrées partout tout de suite, comme je dirais. Et je crois me souvenir, la première voiture que j'avais, c'était la 4L Renault. Et je m'en souviens parce qu'elle était fidèle et solide et elle ne tombait pas souvent en panne. C'est ce qui m'a marqué. Les autres, par la suite, c'est un peu plus délicat.
Ah, c'était une Peugeot. Une petite Peugeot, toute petite, parce qu'elle ne transportait que deux personnes. Oui, mais j'ai connu ces premières voitures en 1925.
Avez-vous des souvenirs de transport en commun ?
J'étais une enfant abandonnée, logée dans une très haute montagne où je n'avais pas l'occasion de voiture ou de voir le train.
Ben, moi, je me souviens surtout du train. Du train qu'on prenait tous les ans pour les vacances. C'était Montpellier-Carcassonne.
Le premier transport en commun dont je me souviens, c'est un train omnibus Cahotan. Il faisait du 30 à l'heure, il n'était pas pressé. Il s'arrêtait à toutes les petites stations et on le prenait pour aller à la ville la plus proche. C'était, quand il y avait vécu ces 30 kilomètres, il avait passé la demi-journée presque. Non, j'exagère. Mais il mettait au moins 2 heures pour faire les 30 kilomètres. Il s'arrêtait bien, bravement. Alors voilà, ça m'a marqué. Mais il y avait une première classe, deuxième classe, troisième classe et quatrième classe. Alors vous voyez, il y avait grand confort. Là, c'était en Lorraine, en Moselle. Mais c'était partout pareil à l'époque. On n'avait pas de voiture en 1925, 1926. Personne, qui avait une voiture à l'époque?
J'ai connu tous ces transports. Mais le meilleur est celui que l'on fait par le train. Oui, parce qu'on rencontre des gens, on peut parler. Et on s'arrête dans des villes qu'on connaît enfin, qu'on aime, voilà. Et on peut voir les paysages aussi.
Ben, le premier transport en commun qui m'est frappé, c'est la caravelle. Parce que ça a été pour moi la révélation de ce que la science pouvait faire. La science, la physique, le travail, l'économie d'effort. Et c'est tout ce que je souhaitais, c'est vouloir travailler. Et c'est ce que j'ai réussi à faire à peu près. Voilà.
Combien existe-t-il de lignes de tram dans l'agglomération de Montpellier ?
Alors, je ne peux pas te le dire du tout, du tout, du tout. Je n'ai jamais pris.
Mais en circulation, actuellement, il y en a 3. Il y en a commencé par la première, je ne sais pas le tracé, je ne le connais pas. Il y avait la ligne 2 et la ligne 3 vient de se terminer. Elle s'arrête près de Juvignac, pas très loin. Et on projette de faire la 4 et la 5, mais ce n'est pas pour demain.
Je ne connais pas assez Montpellier et j'ai peut-être pris le tram une ou deux fois, pas plus. Je me déplace avec ma voiture ou à pied, alors évidemment. Bon, quant au train, écoutez, le train, c'est bizarre, mais mon père était à la SNCF, dans les bureaux de projet, de réalisation. Et c'est comme ça que j'ai vu la France, en allant à droite et à gauche gratuitement, parce que la SNCF ne nous faisait pas payer. On avait des permis d'autorisation.
Pensez-vous que les bus sont adaptés aux personnes âgées ?
C'est pas tellement facile. Moi, je suis vieille. Hein. Pour monter les 2 ou 3 marches qu'il y a, moi, ça me... Non, je ne l'ai pas... Pendant le temps que j'ai pu, j'ai pris ma voiture, mais maintenant c'est fini, il y a longtemps. Non, c'est pas facile.
Malheureusement, je ne peux plus prendre de transport en commun, trop handicapé, trop âgé. Mais ce qui était vraiment perfectionné en dernier, accessible aux personnes âgées, c'est le tramway, à deux plein pied. J'ai eu la chance de le prendre une fois. Et là, vraiment, je pouvais y monter. Mais le souvenir que j'ai des bus, non, on ne pouvait pas y monter. Je ne pouvais absolument même plus en dernier les emprunter. Mais j'espère que ça sera fait aussi, qu'on aura des escabeaux, c'est-à-dire des marches plus basses, que tous les handicapés puissent y monter, ou les personnes un peu gênées par l'âge.
Vous sentez-vous en sécurité en ville?
Non, il y a trop de circulation.
Étant donné les circonstances, n'est-ce pas, je suis plutôt embarrassée de ma personne. Alors, je ne me sens pas en sécurité.
Circuler en ville, il n'en est plus question pour nous, malheureusement. Mais en mes derniers souvenirs, circuler en ville, pour moi, n'était pas dangereux. Ça dépendait des circonstances. On s'adaptait et on n'a pas peur de tout le monde. Enfin, ça aurait été dangereux. Il y avait bien le métro qui était soi-disant dangereux, mais il y avait un accident sur un million de personnes qui circulaient. C'était pas... Mais ce n'est pas plus dangereux qu'autre chose. Il ne faut pas la craindre. Si on veut emprunter les routes, il faut en ville, il faut oser sortir. Et quand on n'ose plus, on reste chez soi.
Moi, mais absolument, la sécurité dépend d'abord de soi. C'est-à-dire qu'on sache voir où est le danger, tu comprends? Qu'on voit où est le danger et puis qu'on l'évite.
Avez-vous connu des actes d'incivilité?
Non, pas spécialement, parce que j'ai eu... J'ai conduit pendant des années et j'ai eu comme beaucoup des accidents. Et il ne faut pas toujours accuser les mêmes. C'est-à-dire l'automobiliste est souvent la tête en l'air ou ailleurs que dans sa voiture. Et bien souvent, c'est la bêtise qui cause les accidents.
Ah ben oui, évidemment, les trajets sont peut-être un peu lassants. Et j'ai vu des enfants qu'on laissait monter sur les banquettes, sur faire de l'acrobatie, gêner les gens, ça oui. À part ça, je ne vois pas.
Je crois que si on ne regarde pas les jeunes avec mépris, du haut de notre alter ego, enfin, si on est vraiment, c'est-à-dire... on leur fait confiance, on ne les regarde pas avec méfiance et ils nous le rendent.
Ah, bien sûr. Il y a des quantités de personnes qui ne respectent pas même la ville où ils sont. Et bien sûr, ils ne respectent pas les gens. Alors, ils les ennuient, ils les embêtent, ils leur font des blagues, Tu peux imaginer tout.
Je crois que vraiment, c'est chez vous que ça réside, le souci de la vie future.
C'était Transportons-nous dans le temps,
une émission réalisée par les jeunes du centre de loisirs de Juvignac avec les résidents de la Cyprière.
Mots croisés. Une série d'émissions produites par le Point Information Jeunesse de la Radio Clapas avec le soutien de la CAF de l'Hérault et la Fondation Transdev.